C'est vrai, on est à côté de Genève, mais du côté français. Et puis Jean-Jacques était aussi mon pasteur, Jean-Jacques Mélan, qui est parmi vous là. Donc je suis à Mérin, on est à Mérin, ma femme et moi, Martine, dans la Fré-é-é. Voilà. Alors ce matin, je suis chargé de vous encourager à prier. Il faut dire que cette prédication de ce matin nous a déjà encouragés, nous, dans la semaine passée, à prier. Et c'est bien d'avoir des challenges comme ça, même lorsqu'on est prédicateur, pour aller de l'avant. Et ce n'est pas évident, c'est vrai, la prière. Je voudrais juste vous lire deux textes, deux versets. Le premier se trouve dans Luc, le chapitre 11 et le verset 1 et 2. Ceux qui ont des Bibles, je vous les laisse ouvrir, pour que vous ayez le temps. C'est une conversation entre les disciples et puis Jésus. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit: Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit: quand vous priez, dites ceci, et puis c'est la prière du Notre Père qu'il va leur enseigner. Alors je retiens juste ce terme, ce bout de phrase: apprends-nous à prier. Tiens, il faut donc apprendre à prier. C'est un travail. Le deuxième texte, il est dans Jacques, chapitre 5, et verset 13. Je prends juste de nouveau un extrait, c'est le fameux texte qui parle de l'onction d'huile. Quand vous êtes malade, appelez les anciens, faites l'onction d'huile, le pardon des péchés aussi. Puis ça termine, ce bout de verset, ces quelques versets terminent par: la prière d'un homme juste est très puissante. Et puis il y a l'histoire qui va suivre, les versets qui vont suivre, c'est les versets où Élie, on raconte que Élie a prié, il y a eu la sécheresse, comme en Israël actuellement. On a un exemple vivant. Donc je répète, la prière d'un homme juste est très puissante. Et alors, nous sommes là devant notre vie de prière et on se dit: puissant, puissante. Je vous dis juste, c'est mon problème aussi, c'est mes questions. On va vous raconter quelques histoires aujourd'hui et bien sûr, on a une longue histoire, on a plus de 60 ans et on raconte toujours les grandes expériences qu'on a réussies, on ne raconte jamais les défaites. Donc prenez-le dans leur contexte. Mais avant de continuer, je vais vous montrer un clip que j'ai pris sur YouTube. J'ai l'habitude de prendre des textes bibliques et de trouver des images, ou le contraire aussi, et de chercher des images qui se télescopent et ça donne une nouvelle signification, comme Jésus a fait lorsqu'il s'est promené dans son pays et qu'il a sûrement vu un paysan là qui était en train de semer et qui dit à ses disciples et aux personnes qui le suivaient, dit: regarde là, là j'ai quelque chose à te raconter à ce sujet, regardez voir comment il fait. Jésus aujourd'hui, il irait sur YouTube, sur Dailymotion et dit: regarde ce clip. Alors je vais vous montrer un extrait de ce clip et après, je vais venir avec mon micro et on va essayer de travailler un petit peu ensemble. Qu'est-ce que ce clip a à voir avec la prière et avec l'encouragement à la prière? Alors, on lance le clip, il est en anglais. Heureusement qu'il n'est pas en suisse-allemand pour vous, mais ça ne fait rien, vous comprendrez. Donc, je vous laisse donc cette question. Quel rapport avec la prière?
Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il faut faire un pas après l'autre. Un machin pour tenir les mains après l'autre. On ne peut pas tout de suite aller tout en haut. C'est vraiment une étape après l'autre.
Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il ne faut pas lâcher prise.
Moi, j'aime bien dans ce reportage, c'est qu'on prend des risques. On se jette à l'eau de temps en temps. Hein. Il faut s'accrocher à quelque chose de nouveau.
C'est difficile. Ça demande du muscle. Et il faut savoir où on arrive.
C'est aussi un apprentissage.
Dur.
On ne le voit pas toujours sur l'image, mais on est toujours deux. Il y en a un qui assure, qui est derrière.
Par rapport à ce que vient de dire Pim, la confiance aussi, qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est en dessous.
On est dans le mur, mais on s'élève.
La persévérance.
Il y a de l'audace et de la témérité aussi.
On se sent libre à la fin. Youpi!
Voilà, je reprends le micro ici. C'est un clip qui est stimulant. Rien que de voir le clip, de l'associer à la prière, ça m'a stimulé. Ça vous donne juste un mode de fonctionnement aujourd'hui dans notre société. C'est qu'on est stimulé par des expériences que d'autres font. Et je pense que un des problèmes du découragement dans la prière, c'est qu'on ne sait pas les expériences que les autres font. Et on arrive peu à les partager. C'est un de nos problèmes. Et bien sûr, on respecte ce texte de Jésus qui dit « Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ne te mets pas au coin de la rue et puis montre à tout le monde que tu pries. » C'est vrai, mais on est très prudent, très prude. On n'ose pas partager. Ou bien on partage lorsque c'est vraiment quelque chose de très gros, un très gros problème. Et là, on partage, mais pas autrement. Mais on va reprendre point par point un petit peu cette histoire de prière. D'ailleurs, vous avez tout dit. Je pourrais m'arrêter ici avec... Vous avez déjà de quoi mâcher la parole de Dieu durant cette semaine. Mais commençons par le fait qu'on est devant ce mur et... Qu'est-ce qu'il y a au départ, quelqu'un l'a dit, la prise de risque. Qu'est-ce que c'est dans la prière? Ben, cette semaine, aujourd'hui, quelqu'un à Renan a envoyé une chaîne de prière, enfin, a envoyé à des amis pour prier pour sa voisine. Sa voisine passe par une petite dépression, ils en ont discuté, et puis elle lui explique qu'elle va voir un hypnotiseur. Alors, la personne avec qui elle discute était chrétienne, donc, pas la fille qui passait par un problème de santé. Ils ont discuté et puis ils ont dit écoute, moi je vais prier pour toi avant d'aller chez l'hypnotiseur. Si ça va mieux, tu n'iras pas. Elle lui a pas dit c'est le diable, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Attends. Jusqu'à vendredi prochain. Et puis, elle lui a dit, je vais mettre des amis sur le coup pour prier pour toi. Elle a pris un risque. Qu'est-ce que si rien se passe d'ici vendredi pour elle, si elle ne se sent pas mieux, la chrétienne, les portes vont se fermer pour elle, dans sa maison. Elle ne pourra pas continuer à vraiment témoigner, dire, ouais, bon, tu m'as parlé déjà une fois. Donc, elle a pris un risque. Et je pense que le découragement vient souvent de ce que nous sommes devant des murs, devant quelque chose à faire et nous ne prenons pas le risque. Donc nous avons non plus le plaisir d'arriver, comme quelqu'un l'a dit, d'arriver en haut et de dire, comme vous avez dit là, « You, super !» Et le mur, Dieu ne nous le met pas comme ici, immense, quand on ne sait pas, quand on a peu l'habitude de prier, et dire « Ah non, mais ce n'est pas possible, c'est trop long. Et puis moi, j'ai 60 ans, je ne vais pas grimper là. » Ça, c'est pour des jeunes. Ou bien les jeunes, ils disent « Ouais, mais ça, c'est pour des vieux qui ont de l'expérience, moi. » Dieu nous met devant des situations que nous pouvons gérer au moment où on doit les gérer. Et il répond à des prières, souvent dans votre entourage, pour vos enfants aussi, vous avez vécu des choses où Dieu a répondu à des exaucements de prières et vous êtes dit « Ah, il répond aussi facilement à un enfant, pourquoi il ne me répond pas à moi tellement vite ?» Et je vais juste demander à Martine de partager une expérience qu'on a vécue avec un de nos gamins.
C'est vrai que je vais m'adresser aux parents et aux grands-parents que vous êtes et que nous sommes, parce que avec les enfants, on fait des expériences de prière formidables et souvent, on ne les inclut pas dans cette expérience de prière et c'est dommage. Je vous raconte une histoire. Alors, on a un petit peu trié avec Henri les histoires qu'on voulait vous raconter. Je suis sûre que si on faisait le tour des personnes ici présentes, vous en auriez tout autant, si ce n'est plus à raconter que nous. N'empêche que je vous en raconte une. On terminait notre séjour à Lima après 4 ans et demi. Et avec nos 4 enfants, on devait se rendre à Buenos Aires. Et la monitrice d'école du dimanche, qui tient là, elle dit au garçon, je vais prier pour toi, pour ton voyage, qu'est-ce que tu veux? Alors le petit dit, moi j'aimerais des sous. Et puis, le troisième, il dit, moi, j'aimerais voir les chutes d'Iguassu. Iguassu, les cinquièmes chutes du monde. Voilà. Alors nous, comme parents, on a entendu. On a décidé de faire le bon Dieu. Hein, on a acheté les billets quand on est arrivé à Buenos Aires. Mais vous savez, Dieu, on ne le court-circuite pas. On ne le remplace pas. C'est Dieu. La veille du départ, c'est un voyage de 24 heures en bus, la veille du départ, notre gamin était couché au lit avec une fièvre de cheval. Bon ben, le bon Dieu, il a failli, en tout cas les parents, ils ont failli, ils ont les billets dans la poche, puis leur gamin est couché. Et notre amie va le voir. J'imagine, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, j'imagine qu'ils ont prié, j'en sais rien, le gamin avait 10 ans. Et puis tout à coup, il lui dit, tu sais, Dieu m'a donné les chutes. Et le lendemain, on était dans le bus, avec un gamin, en pleine santé.
Et il a toujours encore aujourd'hui dans sa Bible, il a dans la trentaine, il a toujours dans sa Bible l'image des chutes du Guassou. Je le signale parce que ça va nous servir par la suite. Alors, continuons, parce que là, on doit avancer rapidement. Qu'est-ce qui fait que les personnes montent dans le mur de grimpe? Ils ont des poignées. La première poignée que nous devons mettre en action, et c'est peut-être évident pour certains, mais pour d'autres pas, c'est de dire, quand je prie, je crois que Dieu m'écoute, m'entend. Il y a un pasteur qui m'a raconté un jour qu'il avait une image pendant une réunion comme celle-là, il ne savait pas pourquoi, une femme sur un vélo. Il dit, non, mais Seigneur, je ne veux pas donner cette image, ça n'est qu'une ni tête. Il l'a donnée. Il y a une femme qui se met à pleurer au fond. Il va s'en approcher et lui pose la question, mais pourquoi vous pleurez? Ah, mais l'image m'a touché. Parce que j'ai peu de temps pour prier. Je prie le matin lorsque je vais en vélo à mon travail, je prie en roulant en vélo et je me demande toujours, est-ce que Dieu m'écoute? Et Dieu lui a répondu. Et ça, c'est la première poignée où on s'appuie. C'est là qu'on prend son départ, la deuxième poignée. Et c'est souvent ce qui nous manque. On prie, on prie, on prie, mais on ne cherche pas à avoir des poignées. Et c'est quoi les poignées dans la vie spirituelle? Quelqu'un pourrait me le dire. C'est quoi la poignée dans la vie spirituelle? J'enlève mon micro, j'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Promesse, persévérance, oui, ça c'est la persévérance, c'est tout dans tout le trajet, mais c'est la promesse. Je vous raconte aussi, c'est de nouveau très exceptionnel, aussi en relation avec le Pérou. On a mis 4 ans pour partir au Pérou, dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible, en grande partie à cause de notre incrédulité, mais parce que personne n'était d'accord non plus, ni nos directeurs à la Ligue, ni nos anciens. On a mis 4 ans et on est parti avec l'accord de tout le monde. On arrive à Lima, je fais très rapide. Premier 3 mois, on a 4 gamins, entre 10 et 5 ans. On a une demande de rapt dans la nuit, un téléphone. Et les personnes qui nous demandaient la rançon mentionnaient des personnes qui travaillaient avec moi. Donc ils étaient renseignés. Nous sommes allés à la police et ainsi de suite. Donc vous vous rendez compte, le stress dans la prière, hein, la concentration comme dans le mur de prière. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas plier bagages parce qu'on s'est battu pendant 4 ans avec nous-mêmes, avec nos responsables, et puis on revient au bout de 3 mois en disant « Ouais, bon, demande de rapt, on préfère arrêter. » Et mettre les enfants sur le bio, c'est un petit peu risqué. Le jour où on a eu cet appel, on a reçu une carte envoyé par une dame de notre église amérin. Vous connaissez toute cette carte, le poussin dans la main, près de moi, tu seras bien gardé. Et voilà la poignée. Alors, c'est clair que ce n'est pas tous les jours que le facteur va arriver parce que vous avez fait une prière et que... Mais il y a la parole de Dieu, bien sûr, qui donne ses poignées. Il y a des prophéties qu'on peut entendre, des images qu'on peut recevoir dans le cadre de la communauté, des encouragements verbaux. Moi, je me rappelle, j'étais dans une réunion au Victoria Hall, et puis j'étais vraiment dans le fond du trou. Et derrière moi, en sortant, il y a quelqu'un qui a prononcé un verset biblique. Pour moi, c'était tilt. Dans la conversation avec quelqu'un d'autre, et je n'étais pas du tout en contact avec cette personne-là. Donc c'est quelque chose que j'ai pris, ben, Dieu m'a dit quelque chose, la poignée. Donc, deuxième chose, essayez de trouver des promesses, des poignées sur lesquelles on va s'appuyer pour grimper. Et ce qui est intéressant dans la grimpe, si vous avez regardé, on grimpe en s'appuyant sur le premier ou le deuxième ou le troisième, mais toujours sur celui du bas. Et on s'appuie en fait sur les expériences précédentes. On dit oui, ça a réussi. Pourquoi ça ne réussirait pas maintenant? Et souvent, on n'a pas fait d'expérience. On est arrivé en haut là, en disant ouais. Et on ne peut pas se rappeler ça. Mon fils qui a les chutes d'Iguassou dans son... C'est pour lui, c'était quelque chose qui est resté. Il pourra se dire, mais ça a marché à l'époque, pourquoi ça ne marche pas maintenant? Donc il y a cette notion de persévérance, on monte, ce mur qui est fait, où Dieu nous met dans des situations qui sont faites pour nous, parce que pour lui, la prière, qu'est-ce qu'il a dans la tête en nous faisant prier? C'est pas parce qu'il a besoin de gens qui lui parlent, mais c'est une expérience de vie, c'est là qu'on apprend la patience, la persévérance, on apprend à se battre avec nous-mêmes, avec nos peurs, avec... C'est un entraînement... Comme dans le film. Et comme les disciples disent, apprends-nous à prier. C'est un entraînement. Et il faut le faire régulièrement. Et ce qui est intéressant, tu es venu avec ton bagage ce matin. Pour grimper, il faut enlever les bagages. On ne peut pas grimper encore avec quelque chose. Ah non, mais je vais encore... Donc, dans la prière, c'est pas évident de se dégager. J'aime pas le terme de vide, faire le vide. Non, le chrétien ne fait pas le vide en lui-même. Mais de pouvoir déposer, de dire, attends, je te laisse ce fardeau-là, maintenant je vais grimper, je vais me... Et puis, il y a ce travail qui est, quelqu'un l'a aussi remarqué, on est assuré. De temps en temps, on se casse la figure, mais ce n'est pas grave, il faut recommencer. Et c'est ça, les découragements, souvent, on tombe, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réponse, on reste en bas du mur, on dit, oh, bon, moi, maintenant, j'arrête. Tu es peut-être dans ce cas ce matin. Remonte. Parce qu'au bout, il y a une réponse. Il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, c'est arrivé. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec cette gamine qui commence, qui apprend à monter, et quelqu'un est en bas, on voit bien la fille qui tient, qui est là pour la rattraper. Je pense que ce qui nous manque peut-être dans la prière en communauté, c'est qu'on n'a pas assez d'encouragement. Cette semaine, c'est exactement ça. En préparant cette prédication, je me suis dit, tiens, il faut que j'écrive à un de mes amis et de lui poser la question, alors, tu cherches du travail, tu pries, comment ça se développe, comment ça se déroule? Est-ce qu'on pose des questions? Parce qu'on a un rôle à jouer aussi dans l'encouragement pour les autres. Est-ce qu'on pose des questions? Alors, Dieu t'a répondu? Ah, il t'a pas répondu? Viens, on va prier ensemble. Et ça, c'est un aspect communautaire qui est très très important. Et souvent, comme je l'ai dit au début, on est très prude et on ne veut pas partager, ou on a de la peine à partager, même les petites choses. Alors, je vous encourage aussi à travailler là. Et ce que c'est la fille à la fin, quand elle se tourne là, c'est tellement merveilleux quand on le voit, quand on la voit, elle applaudit. T'es super, t'es arrivé. J'ai bien aimé qu'on a félicité René et puis ceux qui ont fait le FSE, Georges, puis d'autres dames. On les a encouragés. Mais dans la prière, on devrait développer les mêmes encouragements. Me dire, t'as réussi, c'est super. Mais voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai laissé la séquence de cette fille au final, si vous avez remarqué, on la filme à descendre dans les rochers, à se pencher avec un arbre, dans un arbre, et ainsi de suite. Le travail avec la prière nous facilite la vie dehors, en dehors de la prière. Elle a appris à grimper, donc elle est plus agile sur les rochers dehors. Et moi, je pense que la vie de prière nous rend beaucoup plus capables de vivre en société, parce que nous avons acquis des réflexes, des choses que nous pouvons aussi vivre dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que la persévérance, la patience, et ainsi de suite. Donc ça a une influence aussi sur notre vie de tous les jours. Je vais terminer par quelques trucs pratiques. Comment moi je prie? Moi, j'arrive le mieux à prier lorsque je marche. Alors il faut que je sorte. Je marche. Quand moi je commence à marcher, je peux causer à Dieu facilement. Alors j'ai des kilomètres de prière. Je mesure mes temps de prière en kilomètres que je fais. Mais quand je m'assois à la maison, j'ai acheté d'ailleurs il y a 2-3 ans un petit banc de prière à Thésée. J'ai essayé me concentrer. Non, j'arrive pas. Ça veut dire que quand il pleut, par un temps mauvais, je suis moins performant en prière. Ça veut dire qu'il y a aussi des rythmes, hein, des temps où on est plus performant que dans d'autres. Alors dans les temps où je suis moins performant parce que je n'arrive pas à sortir, on met beaucoup plus l'accent sur la prière en couple. Alors là, ça encourage aussi quand on prie avec son couple, avec sa femme, c'est stimulant. Ça donne d'autres rythmes. J'ai aussi essayé un temps quelque chose de très particulier. C'est un truc de golf, hein, parce que les golfs, enfin, je ne joue pas au golf, mais je l'ai vu dans un magasin de golf en passant. C'est des boules, ça rappelle des catholiques, le chapelet, exactement. Toutes les choses, souvent dans l'Église, y compris chez les catholiques, ont commencé par de belles et de bonnes choses. Je pense que le chapelet en était une. C'est pas parce qu'il est devenu maintenant un objet rituel, liturgique, aberrant, qu'il ne faut peut-être pas revenir à ça. Et pendant pas mal de temps, j'ai prié avec un chapelet où j'ai mis des couleurs. Et au boulot, j'avais défini que le jaune, c'était pour la famille, le vert, c'était pour telle et telle personne, pour le rouge, pour la communauté, enfin, ce genre de choses. Et puis, pendant la journée, parce que je mettais la main à la poche, hein, je disais, ah tiens, il faut que je prie. Je prenais une minute, deux minutes pour prier. Paf, et je faisais avancer ma boule de ce côté-là. Voilà, j'avais prié par ça et je recommençais. C'est un stimulant tout simple pour s'entraîner, hein, c'est un entraînement. Donc, je vais m'arrêter là, et puis, allez-y. Allez-y. Et si vous tombez, pas grave, il y a quelqu'un qui vous assure. Essayez. Merci.
Merci Henri. C'est vrai que c'est dommage, hein? Moi j'aurais bien continué encore un petit bout. Avant de passer à la scène, moi je pense que c'est bien de prendre un petit moment. S'il y a des gens qui veulent s'exprimer par la prière, qui veulent leur formuler un engagement, qui bien garder le silence, mais qu'on puisse prendre ce petit moment pour se repositionner devant Dieu face à la prière, face à notre vie de prière.